18h, 19h30, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Zéa, bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver, chers amis auditeurs. On démarre cette semaine avec vous, justement. Et vous êtes encore en vacances et vous, l'application Beurre FM est avec vous. Évidemment, elle vous suit, elle vous poursuit, elle vous pourchasse. Où que vous soyez, partout en France et dans le monde, vous le savez. Et si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le télécharger. Alors, au menu, au programme de cette émission, les informés, jusqu'à 19h30, nous sommes ensemble, évidemment, pour vous accompagner. Nous ne faisons pas le pont, mais on est ensemble. Alors, il est bien chargé, ce menu. On va parler d'un film qui a retenu mon attention. Un film exceptionnel. Il traite du printemps arabe. Halqa, un film de Lotfi Nathan. Mais vous savez avec qui on sera tout à l'heure ? Avec un invité exceptionnel, justement. C'est l'acteur principal, Adam Bessa, un jeune acteur français qui a brillé, je dois le dire, dans ce film. On en parlera avec lui tout à l'heure dans une poignée de minutes. Ensuite, on parlera aussi avec une autre personnalité à 18h20 tout à l'heure. Une interview aussi exceptionnelle. C'est un sculpteur. Il s'appelle Rachid Koraïchi. C'est un peintre, graveur, contemporain. Et vous savez quoi ? Il s'est imprégné de plusieurs cultures. Il a fait des manuscrits, du graphisme exceptionnel. Eh bien, il nous a fait, vous savez quoi ? L'honneur d'être avec nous tout à l'heure. Parce que, figurez-vous, il y a un événement. C'est demain, jour férié. Un événement où l'auteur, justement ce peintre, il a fait une sculpture géante au parc de la Courneuve. Ça vaut le coup d'y être quand même. Et bien, il sera avec nous tout à l'heure à 18h20. Le face-à-face, chers amis, ils sont trois ce soir et ils vont confronter leur point de vue sur des sujets qui ont retenu notre attention. Tout d'abord, on reviendra sur, eh bien, que s'est-il passé ce week-end ? Cet affrontement entre les écolos, qualifiés par Gérard Darmanin d'éco-terrorisme, les députés qui se font évidemment alpaguer, tabasser, voire entre guillemets, par les gendarmes, eh bien on reviendra sur tout cela et on le commentera puisque certains d'ores et déjà parlent de dérive de Gérard Darmanin, du ministre de l'Intérieur. On parlera aussi d'un autre sujet. Aïe, 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 on va sortir la clochette. La gauche, jusqu'ici la NUPES, ils s'étaient entendus pour être d'accord sur plein de sujets. Mais j'ai l'impression que les motions de censure commencent à diviser. Tring, tring, tring ! Ah ! Bah oui, parce que la gauche, elle est, pour le coup, divisée, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les filles, la France insoumise. Et bien, on en parlera tout à l'heure. La zone euro, l'inflation qui dépasse les 10%, elle atteint un nouveau record en octobre. Sauf que notre panier moyen, ben lui, il en prend un coup. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et puis, on a un petit mot, ou un grand mot, sur la guerre en Ukraine. Parce que figurez-vous là que la situation devient extrêmement explosive. Électricité, céréales, pas d'accord, panne diplomatique, ça mérite une double clochette. C'est une double, ça ? Ouais, non, c'est une seule. Ah, ça. Non, parce que c'est compliqué quand on parle de la guerre en Ukraine. Allez, le programme, vous le savez, il est bien chargé. Et vous aussi, au 01 53 48 3000, vous le savez, vous êtes très 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 nombreux à nous suivre. Et je vous en remercie infiniment. Allez, c'est parti, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
L'interview du jour, c'est parti pour démarrer cette semaine.
Les informés, l'interview.
Et c'est pour parler du film Halqa, justement un film de Lotfi. Bonjour mon cher Adam Bessa, l'acteur principal est avec nous. Vraiment, vous avez vu que vous êtes avec nous et franchement, on est ravis que vous soyez avec nous, Adam Bessa. Bonjour.
Merci pour l'invitation. Bonjour, merci pour l'invitation.
Ben écoutez, avec grand plaisir. Vous venez parler de ce film. Vous êtes vous jeune acteur français, vous avez été révélé justement par ce film, Halqa, des drames, conséquences justement sur le printemps arabe, cette jeunesse tunisienne. Un film que vous avez porté, je dois le dire, j'ai vu le film. D'abord, je voudrais vous féliciter, vous, Adam Bessa. Non, mais je ne vous félicite pas pour vous le dire comme ça, très honnêtement. Je l'ai dit évidemment à votre entourage, je l'ai trouvé exceptionnel votre rôle. Et vous l'incarnez très, très, très bien. Bravo, Adam Bessa.
Ah, merci, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Merci.
Alors, justement, comment vous avez fait pour le porter à bout de bras, ce film. Au fait, le film, vous le tenez, vous le portez et vous l'incarnez.
Bah, c'est plusieurs choses, hein. C'est une rencontre de choses. Voilà, d'abord, c'est une histoire magnifique. C'est une rencontre avec un réalisateur qui est très talentueux, qui laisse beaucoup de place, avec qui on a extrêmement bien travaillé. C'est la première fois.
Lotfi Nathan, puisque vous faites référence au réalisateur, il s'appelle Lotfi Nathan.
Voilà, qui est lui égyptien, mais né à New York, grandi aux États-Unis. Mais. Donc voilà, donc une amitié est née, une vraie collaboration artistique, et voilà. C'est mon quatrième film maintenant. J'avais eu des expériences américaines avant qui m'ont bien fait travailler. Et là, ce projet, je pense que je suis arrivé à un petit peu de maturité dans le travail.
Oui, parce que vous êtes un jeune acteur. Vous avez quoi, à peine 21 ans, me semble-t-il.
Non, j'ai un peu plus que ça, moi.
Vous avez combien, quel âge aujourd'hui? Parce que vous faites jeune quand même,
ans.
Non?
J'ai 30 ans.
Vous êtes super jeune dans le film. Hein. Je vous promets, on dirait que vous avez 20 ans, on dirait que vous avez 21 ans. C'est bien, tant mieux.
Ouais, bah, tant mieux, écoutez.
Tant mieux.
En tout cas, ouais, voilà, donc c'est un rôle qui arrive à un moment cool de la carrière. Moi, j'ai commencé en 2017 avec Les Bienheureux de Sofia Djama, un film franco-algérien. Et voilà, donc quelques années plus tard, et puis c'est aussi la Tunisie.
Avec Samy Bouadjila, me semble-t-il, de mémoire,
exactement,
non?
Exactement, voilà.
Ah oui, parce que ça me parle, ce film, moi. Je n'ai pas tout de suite, quand vous me dites...
Vous l'avez vu ou pas?
Comment?
Vous vous souvenez de ce film?
Ben oui, c'est pour ça que je vous parle de Samy Bouadjila.
Bah, vous vous souvenez de Reda.
Et de Nadia Kassi.
Oui, et ben le gars qui fait le tatouage, Reda.
Vous savez, je suis cinéphile, hein, donc vous pouvez y aller. Hein. Moi, je peux vous en parler.
D'accord, ok.
Bah, et donc le garçon, vous avez parlé quoi, de tatouage?
Ouais, c'est lui qui est tatoué sur le torse, la surat
al-Ikhlas. Exact, c'est vous.
Ah oui, c'est moi.
Mais oui, c'est vous, merci, clochette. Mais ça y est, ça me revient, vous avez raison, absolument. Mais il est tout jeune, ce film, en plus, il date quoi, il y a 2-3 ans,
oui,
semble-t-il.
Bah,
même pas,
oui,
non? 2 ans
ça, non, c'est un peu plus, c'était 2017-2018.
Déjà
ça, c'est ça, ça passe vite, c'est 5 ans. Mais moi, c'était mon premier film, ça.
Et vous avez été nommé au César, vous, d'ailleurs. Rabol, disons-le aux auditeurs.
Exactement, ouais.
Dans la catégorie du meilleur révélation masculine.
C'est ça.
C'était donc, en quelle année, ça? En 2019?
Ouais, c'est ça, je crois. 2018 ouais. Ou 2019, ouais. Et du coup, voilà. Donc, on a continué de travailler dur. Et ensuite, cette histoire est arrivée. Et voilà. Mes parents sont originaires de Tunisie. J'y allais souvent. J'ai passé toutes mes vacances là-bas, c'est un pays duquel je suis très très proche. Voilà, j'ai la double nationalité comme beaucoup de jeunes ici. Et voilà, de raconter une histoire en Tunisie, ça faisait longtemps que j'y pensais, que j'avais envie. Et voilà, l'histoire de cette jeunesse-là, 10 ans après le printemps arabe, c'est une réalité qu'on trouve. Et ce qui m'a plu dans l'histoire, c'est vraiment voilà, le fait que c'est une histoire qui peut raconter l'histoire de Marocains, d'Algériens.
Oui, Marocain, Algérien, Tunisien. Parlons-en c'est justement, mon cher Adama Bessa. Harqa, ça veut dire quoi précisément? Parce que c'est un mot en arabe, ça. Hein.
Oui,
ça veut dire brûler, non? C'est ça.
Oui, exactement, c'est ça. C'est une brûlure, c'est à double sens, parce que dans l'argot tunisien, taharq, ça veut dire que tu traverses la frontière illégalement par la mer. Alors,
comment, avec Lotfi Nathan, le réalisateur du film, comment s'est fait justement cette collaboration pour incarner ce personnage? Ce personnage d'ailleurs du film que vous tenez, vous le gérez d'un bout à l'autre, je dois le dire. Et effectivement, vous nous tenez en haleine jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Sur les différentes séquences, comment vous avez travaillé justement avec Lotfi Nathan?
Ça a été une énorme préparation, plus que jamais je ne l'ai fait. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment été dans une méthode qui peut être connue comme la méthode de l'acteur studio. Vous savez, une méthode qui a été utilisée dans les années 80 par De Niro, Al Pacino, tout ça. C'était une méthode où on se mettait vraiment dans le personnage et on y reste. En fait, on ne sort pas du personnage tout le long du tournage. Et voilà, j'ai...
Non, vous avez été bon. Hein. Franchement, je vous le dis. Bravo.
Bah, merci. Et moi, l'histoire me tenait tellement à cœur que j'avais envie d'être le plus vrai possible et ne pas laisser un détail. Et donc, voilà, avec Lotfi, on s'est beaucoup préparé pendant 3 semaines.
Alors, justement, le jeune que vous incarnez dans ce film, Harqa, dites-nous un petit peu, hein, parce que vous nous faites une plongée quand même entre à la fois des sacrifices, vous avez des sœurs, vous vivez avec des sœurs, pardon, vos parents sont évidemment absents, vous... Vous, dans le film, vous le racontez, vous vivez de débrouilles, de système D. Ouais. Vous vendez de l'essence au noir. Vous essayez de ramasser le plus d'argent pour fuir, pour aller en direction de la Libye. Et puis, ça capote.
Ça capote au moment où mes sœurs, en fait, mon père décède. Et là, en fait, ma mère était déjà
décédée
quand j'étais petit. Donc, j'étais l'âge de, on devient orphelin. Et en fait, mes sœurs, il n'y a personne pour s'occuper d'elles. Et du coup, ben, elles ont 12 ans. Et
vous faites une tentative dans le film quand même. Vous tentez de partir.
Oui, à un moment donné, oui. Mais en fait, il ne peut pas laisser ses sœurs. Et du coup, à partir du moment où il apprend ça, voilà, il reste...
C'est l'arrivée de la police qui, évidemment, bouscule votre destin.
C'est ça, la corruption, bien évidemment, comme malheureusement, elle existe encore. Un système qui est difficile, en fait. Voilà, quand on... De toute façon, ça, c'est un système mondial. Un peu, c'est plus on est pauvre, plus c'est difficile de... En fait, l'extrême pauvreté, quand on n'a vraiment rien, c'est très difficile de s'en sortir. Et après, plus on gagne et plus on a d'opportunités.
Oui.
Mais voilà, c'est une vérité où il y a très, très peu de choses qui sont mises en place. Et voilà, on est...
Oui. Et puis, alors, on va pas raconter tout le film, mais à la fin du film, cette séquence, moi, qui évidemment traduit énormément de choses.
Oui.
L'autre fille, Nathan, le réalisateur, a décidé de passer plusieurs minutes, évidemment, sur ce jeune qui décide de se brûler. Racontez-nous ce passage.
Bah, ce passage, c'est un passage extrêmement fort, en fait, parce que c'est un acte déjà qui s'est vraiment passé. On l'a tourné sur les lieux où ça s'est passé.
C'est le début du. Du printemps arabe, en Tunisie.
Du printemps arabe, exactement. Et en fait, c'est un acte d'une violence
inouïe.
Inouïe, j'arrive pas à imaginer quand je lisais le scénario, qu'est-ce que je pouvais voir de pire. Et en fait, du coup, ça a été beaucoup d'émotions pour tous les gens déjà de l'équipe. Et en fait, cette histoire, enfin, en plus, vu que c'est une histoire vraie, ça a pris encore un sens encore plus fort et c'est une image très forte. En fait,
elle est forte cette image. Moi, vous savez qu'elle m'a retenu mon attention. Hein. Parce que. Et puis à la fin, on voit vos deux sœurs et puis vous, face à la mer, cet horizon. L'horizon, c'est quoi? C'est l'espoir?
Ouais, toujours.
Toujours.
Moi, ayant grandi à Marseille, dans le sud de la France, la Tunisie, l'horizon, c'est l'espoir. Ça, je peux vous le dire. J'ai la mer, je l'ai regardée pendant 25 ans de ma vie et je la regarde toujours. Et la mer, ça restera toujours quelque chose qui est... c'est ça, c'est l'ailleurs, c'est l'espoir.
En quelque sorte, Adam Bessa, Ali, le jeune que vous incarnez, le jeune Tunisien que vous incarnez dans le film Harka, il est tout le temps en permanence entre une espèce de torture et de révolte, tout le long du film d'ailleurs.
En fait, il n'y a rien de pire pour un être humain que de ne pas arriver à s'épanouir dans ce qu'il a envie de faire. Donc, en fait, ça donne une rage immense et on peut le voir partout, ça, même.
C'est encore d'actualité aujourd'hui en Tunisie ?
Oui, bien sûr.
Oui.
Ça, c'est un portrait contemporain de la Tunisie d'aujourd'hui. C'est une jeunesse qui existe aujourd'hui dans les milieux ruraux.
C'est toujours palpable aujourd'hui, la Tunisie, les jeunes.
Oui, bien sûr, vous voyez bien tout ce qui se passe. De toute façon, les gens qui arrivent. Donc, oui, c'est une réalité qui est très forte. Il y a eu des crises économiques et les situations, vous avez vu ce qui se passe au Liban, vous avez vu les situations économiques sont très très difficiles. Donc,
c'est inquiétant, c'est au-delà de difficile, je pense que c'est préoccupant pour l'avenir.
C'est triste, moi. Du coup, c'est un film, c'est une tragédie moderne, en fait, ce film. Harka, c'est à l'image de... Voilà, c'est vraiment une tragédie, un grand film d'émotion pour moi et j'en suis très très fier.
Ah non, mais il est exceptionnel. Franchement, je vous dis pas ça pour vous faire plaisir. Mais les auditeurs, moi, vraiment, tous ceux qui nous écoutent partout en France, il sort demain, après-demain. Adam Bessa.
Après-demain, exactement, mais je vous avais perdu.
Il sort après-demain, il sort le 2 novembre. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent justement, à quelques jours de la sortie du film Harka?
Franchement, j'ai envie de dire à tous ceux qui aiment regarder des bons films, ressortir avec, sincèrement, quand on se dit c'est un bon film, j'ai vu un bon film, voilà, des vraies émotions, un film qui nous reste, qui a un écho dans l'époque dans laquelle on vit. Et voilà, s'ils veulent passer vraiment un bon moment de cinéma, allez-y, parce que franchement, je suis très fier du film, je suis très content et j'espère que voilà, les gens l'aimeront et que l'accueil sera beau, quoi. Voilà.
Écoutez, je vous le souhaite parce que c'est un film évidemment qui mérite toute l'attention de nos auditeurs. Moi, en tout cas, je dirais à nos auditeurs qu'il faut aller le voir après-demain. Il faut aller le voir parce que c'est un film d'actualité, c'est un film beau, un beau thriller, hein, si je peux me permettre de dire ça. C'est un beau thriller. Et puis surtout, votre rôle vraiment, il est pour le coup, là vous le jouez, vous l'incarnez, il est exceptionnel. Écoutez, je pense qu'il faut vous soutenir et il faut soutenir ce film Harqa.
C'est gentil, merci beaucoup en tout cas, ça fait très chaud au cœur, merci, ça me touche.
Et je vous le dis, bravo, bravo parce que c'est un film qui a retenu notre attention ici.
Merci beaucoup, ça me fait plaisir.
Puis je lui souhaite plein de succès, merci Adam Bessa, le jeune acteur, je vous ai fait très très jeune, hein. Vous avez rendu compte, mais vous êtes encore jeune. Hein. Attendez, je vous ai donné 21 ans alors que vous avez 30 ans. J'ai loupé un chapitre là.
C'est ça, faut aller sur Allociné, vous allez voir, rattraper, il y a quelques films à voir.
C'est ça, exactement. Un film de Lotfi Nathan avec Adam Bessa, Salima Matoug, Iqbal, c'est ça, Arbi, c'est ça. Absolument. Exactement. Allez-y, allez-y, allez-y. Merci Adam Bessa et bon voir à ce film.
Merci, bonne soirée à vous. Au revoir.
Bon courage. Très beau film. Hein. Oui, c'est touchant. Moi, je vous le dis clairement, il faut aller le voir. Il faut aller le voir. Moi, j'ai vu le film. Il se regarde bien. Il est incroyable, incroyable. Allez le soutenir, chers amis auditeurs. Allez, on va marquer une pause et on va retrouver justement un autre invité. Et là, il s'agit d'un peintre, un grand, grand peintre, Rachid Kouraïchi. Il est avec nous dans une poignée de minutes. Eh bien, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les informés, présentés par Adil Farkan.
Bonjour, si vous venez de nous retrouver les 18h21, et sachez-le, justement, c'est ici que ça se passe, les informés, de 18h jusqu'à 19h30. Et nous sommes ensemble avec l'interview, c'est reparti.
Les informés. L'interview.
Et l'interview, vous le savez, c'est avec un peintre, un graffeur, justement algérien du monde contemporain. Il est imprégné d'une culture, de toutes les cultures. Rachid Kouraïchi, justement, vous savez quoi ? Il est aussi dans les manuscrits, graphisme. Un homme exceptionnel qui a décidé d'être avec nous parce que demain, il y a un événement. Rachid Kouraïchi, bonjour.
Bonjour. Moi, ça va après-midi.
Vous savez que ça nous fait plaisir que vous soyez avec nous.
Merci beaucoup, vous êtes très agréable.
Mais écoutez, quand évidemment on apprécie les œuvres de ceux qui les portent, ça nous fait toujours plaisir d'en parler. Dites-moi, mon cher Rachid Kouraïchi, j'ai parlé de vous évidemment en tant que peintre graffeur, vous avez œuvré dans évidemment plein de choses. Où en êtes-vous aujourd'hui précisément avant de parler de votre œuvre ?
Dans plein de choses, beaucoup de choses. Donc, je travaille surtout, moi, en gros, je ne travaille pas dans mon atelier parisien. C'est là où je réfléchis, où je fais plutôt des livres. Mais par contre, j'ai des ateliers à travers le monde. J'aime les gens, j'aime les corps de métier. Là, actuellement, je suis sur des ateliers au Caire depuis une dizaine d'années. Un atelier de céramique et de porcelaine à Barcelone. Les ateliers d'œuvres monumentales avec Madame Abramovic, avec Anish Kapoor à Madrid, et autre chose, voilà. Et je suis nomade d'atelier, et c'est la rencontre de l'autre, la rencontre de la mémoire des doigts des autres aussi qui est fondamentale, et je pense que c'est ça qui nous aide à être humains parmi
Parce que des expositions, vous en avez fait. Et beaucoup, énormément.
Sauf, je dis bien sauf, en France où je vis depuis une cinquantaine d'années, dans mon pays d'origine, l'Algérie aussi. Mais par contre, j'ai beaucoup plus d'expositions à New York, à Londres, et je suis collectionné dans des expos permanentes, en plus, dans les grands musées du monde. Et malheureusement, les deux pays que j'aime, c'est comme ça.
Vous faites référence à l'Algérie et la France.
Absolument.
Comment ça se fait ? Vous savez pourquoi ? Vous faites bien de m'amener sur ce terrain. Vous fait sourire, mais moi aussi, parce que vous vous êtes vu décerner des prix, à Londres, notamment.
Oui.
Et puis, vous avez parlé de je crois qu'il me semble de mémoire, vous avez reçu un prix à Paris aussi, non ?
À Paris, c'est l'Institut Polignac, mais ça remonte à très longtemps, mais ce n'est pas totalement lié au plasticien, plutôt à mon cheminement parmi les grands poètes, les grands écrivains, des publications surtout dans des grandes maisons d'édition. Ça, du côté des écrits, c'est formidable. Je viens de la civilisation à la culture du livre et je suis très heureux.
Justement, regardez, vous disiez à l'instant que vous étiez un peu déçu en quelque sorte, c'est ça, hein, déçu de ne pas avoir eu de prix ou de reconnaissance de l'Algérie. Est-ce qu'on a une raison?
Bon, vous savez, c'est toujours comme ça. Moi, je vais dire une chose qui se dit tout le temps, les prophètes en son pays. Mais moi, pour moi, quand je vois les œuvres de Matisse, de Picasso, Picabia, et je peux citer 10 de 1000 personnes dans les grands musées autres de leur pays d'origine, c'est pas un problème parce que l'univers et le monde des artistes, quand on entend la calasse ou quand on
Mais
entend
ça
par
génère
exemple
des
une
frustrations chez
couture,
vous?
ah, pas du tout,
Pas du
pas du
tout.
tout.
Ouais.
Parce que les œuvres restent, elles survivent à l'artiste, aux artistes, et c'est en ça que c'est formidable. Moi, si vous me donnez à choisir, d'être exposé au MoMA ou être acquis par le Guggenheim ou en permanence dans les salles du British Museum, bon, pour moi, c'est beaucoup mieux que dans des lieux où malheureusement les gens ne viennent pas, ne bougent pas. Je pense par exemple à l'Algérie, malheureusement, où bon, la situation des arts classiques assez particulière. Bon, mais c'est vrai que le peuple d'Algérie, les gens me connaissent, m'apprécient, me respectent, et ça me suffit.
Oui. Justement, Rachid Kouraïchi, un événement on peut l'appeler quand même, de grande ampleur. Ça se passe à La Courneuve, au parc de La
Oui.
Courneuve. Justement, une sculpture géante qui rendra hommage aux victimes de l'indépendance de l'Algérie, quand on parle de l'indépendance de l'Algérie. De quoi s'agit-il précisément, Rachid Kouraïchi, l'artiste,
Alors,
vous qui êtes renommé international?
moi, je ne dirais pas victime de l'indépendance d'Algérie, mais c'est des gens qui ont donné leur vie, qui ont sacrifié leur vie, qui ont fait don de leur vie, ce qu'ils ont de plus précieux pour qu'un peuple soit indépendant. Et pour moi, ces gens, bon, il n'y a aucune trace, pratiquement. On a retrouvé juste une femme qui va parler demain, Inch'Allah, parce que sa tante a disparu aussi, c'est la seule. Mais tous ceux qui ont été jetés à la Seine, qui ont été étranglés, disparus, grâce aussi au système policier de l'époque, qui était quand même, qui a aidé aussi des nazis, qui a aidé Vichy, donc il ne faut pas l'oublier. Et je pense que c'est fondamental. Moi, j'ai connu la Courneuve quand c'était à la ligne d'horizon des bidonvilles, à l'époque des éternites, des morceaux de bois et de choses, et des dortoirs petits, étroits, sur trois niveaux de lit, où on s'échangeait la couche 3 x 8. Il y avait la boue, il y avait les excréments, tout était mélangé, pas des boues, pas des... C'est
Mais
très
justement,
particulier.
Vous, l'artiste Rachid Kouraïchi, ce travail mémoriel, il a commencé comment et grâce à qui? Est-ce que c'est la mairie de La Courneuve qui vous a contacté?
Non, c'est le département de la Courneuve, d'abord. C'est l'équipe de M. Troussel, parce qu'il y a eu les
Vous
60
parlez
ans
de
de
lui?
l'indépendance.
Oui, vous parlez de lui, on l'a
Ouais.
reçu il y a quelques jours ici, justement, et en
Voilà.
plus il était à Alger pendant 4 jours.
Oui, c'est allé à Alger, à Bougie. J'ai aussi, donc, il rentre là pour l'événement. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que on oublie souvent, nos amis français nous ont beaucoup soutenus pendant la guerre d'indépendance. Je ne pense pas seulement aux porteurs de valises, aux gens qui ont écrit sur la torture. Je pense à ceux qui ont caché. J'ai des amis, femmes aussi, qui ont vécu avec des gens qui étaient recherchés comme terroristes, etc. Mais quand je dis terroriste, De Gaulle était aussi terroriste par rapport à Vichy. Donc, il faut voir ce qu'on met dans le terme terroriste. Tous les résistants étaient traités de terroristes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quand on voit certaines stèles qui ont été mises à la mémoire de génocidaires de l'OAS, donc on se pose aussi la question. Il y a des gens dans certaines villes de France où il y a des monuments pour les génocidaires et tout le monde passe à normal. Et on voit aussi des rues ou des avenues Pélissier, qui était un des grands spécialistes du gazage de population, puisqu'à l'époque on appelait ça des enfumades dans les routes, au Dahra et ailleurs. Donc l'histoire n'est pas écrite dans sa réalité. Beaucoup de mes amis, quand je parle de tout ça, ils ouvrent des yeux écarquillés et je leur dis, écoutez, avant même les nazis, il y a eu des gazages de population entière, des tribus dans les grottes. On se retrouve aujourd'hui, en Algérie encore, aujourd'hui, quand nous voyons certaines grottes, on trouve des centaines de cadavres. Donc je pense que nous, on a une fraternité très forte avec le peuple de France. Le peuple de France a perdu aussi ses enfants pendant cette guerre qui ne les concernait pas. C'était des appelés du service. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut continuer à faire non seulement ce rapprochement, faire cette amitié, ce partage à la fois de la douleur et des bonheurs.
Alors justement, ce travail mémoriel qui rendra hommage aux victimes, justement, à la Seine-Saint-Denis, il se traduit comment demain concrètement? C'est à quelle heure précisément et au parc de la Courneuve demain?
Alors normalement, c'est demain vers 10h, 10h30. Au départ, avec M. Troussel, l'idée, ça a été de m'acheter une œuvre pour la mettre au musée du département. Et je leur ai dit, écoutez, pour quelle raison d'abord? On m'a dit, oui, c'est les 60 ans de l'indépendance. J'ai dit, écoutez, moi, mon père était un résistant à Matisard. On a vu partir, j'étais tout jeune, donc dans les montagnes, et préparer bien avant, en 54 d'ailleurs, la préparative, parce qu'on va aller à la montagne, tu n'as pas d'armes, tu n'as pas de pansement si tu es blessé, tu n'as pas de nourriture cachée, tu n'as pas des bottes cachées, tu n'as pas... Bon, bref, on connaît les préparatifs des combats qui demandent avant dans le secret des préparatifs. Et en même temps, pour nous, c'était quand même le 1er novembre, c'est le jour de la Toussaint, de tous les saints. Mmh. Et là, donc, j'ai dit, moi, je ne veux pas que vous m'achetiez une œuvre pour le musée du département. Qui va la voir, connaissant un peu la population de cette zone-là, Saint-Denis, Blanc-Ménil, etc. Et donc, j'ai dit, je préfère, moi, offrir une œuvre à la mémoire de tous ces martyrs. Plutôt que de me faire acheter, je ne vais pas avoir d'argent pour ça. Donc, c'est parti de cette idée. Et j'ai souhaité faire une sculpture, une grande sculpture de bronze. Celle-là, comme les ateliers habituels à Madrid...
Comme une figie, donc, paraît-il, hein?
Elle a été faite en Grèce, hein, celle-là. Et elle fait plus de 3 mètres de hauteur, cette pièce. Et une forme de vigie et de quelqu'un qui regarde, et c'est pour ça que je les rappelle le vigilant, c'est-à-dire il protège les autres, il garde la trace des autres, et en même temps c'est une sculpture qui est très aérienne, mais en même temps elle joue beaucoup avec son ombre. Et l'ombre, pour moi, dans mon travail, c'est la chose la plus fidèle, et c'est pour ça que je pense à la fidélité à ces martyrs français et algériens,
oui.
Parce que l'ombre, on est avec notre empreinte d'ombre, on vit avec. Elle nous suit toute notre vie. Quand on meurt, elle part avec nous dans la tombe.
C'est pas faux.
Elle disparaît avec nous. Donc, je pense que c'est la fidélité la plus absolue. Et aujourd'hui, elle va marquer son empreinte, donc le terrain de la Courneuve. Donc, elle suivra cette sculpture, elle suivra la tournée du soleil. Voilà. Et elle continuera ce chemin en regardant les autres, bien haut, dominant le lac, dominant donc tous les éléments que les paysagistes ont fait de ce lieu magique.
Dites-moi, dernière question, demain vous invitez, j'imagine, les auditeurs à venir vivre ce moment, demain à 10h30, demain matin, on est séjour férié, donc il n'y a pas d'excuse. Ça se passe au parc de la Courneuve, avec évidemment, j'imagine, les personnalités politiques, il y aura aussi des acteurs associatifs et tout. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous souhaiterez, évidemment, faire noter à nos auditeurs?
Moi, d'abord, demain, M. Troussel et l'ambassadeur d'Algérie, Saïd Moussi, seront là. Donc, ils représentent le peuple d'Algérie, donc le pays de l'Algérie, qui vient là, invité par la Courneuve et la Seine-Saint-Denis, d'être présent à la mémoire de tout le monde. Il y aura une femme, donc, qui est la nièce d'une disparue, qui viendra témoigner. Et moi, je dirai pourquoi aussi j'ai fait cette pièce et d'expliquer qu'est-ce qu'elle représente pour moi. Et c'est le cadeau, l'offrande que je ferai à tous ces gens qui n'ont plus ni de tombe, ni de trace de ceux qu'ils ont aimés et qui ont disparu.
Justement, événement donc exceptionnel demain à 10h30 à ne pas manquer. Quels sont les futurs projets qui vous attendent, mon cher Rachid Koraïchi? Justement, vous, peintre à renommée internationale, puisqu'on vous retrouve un peu partout dans le monde, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure.
Oui, alors je pars justement le jeudi prochain, 2 jours après, sur l'Andalousie, dans une ville qui s'appelle Obeda, formidable. J'ai attendu la réalisation de la restauration du plus vieux four de céramique de cette ville andalouse. Donc, et la population et les autorités locales ont voulu absolument que ce soit moi qui inaugure la première cuisson en faisant des œuvres dedans. Et après, 2 semaines après, je pars au Caire, où je travaille sur l'atelier textile depuis plusieurs années. Vous savez, tout le monde sait ce que c'est le coton d'Égypte, qui est une longue fibre, qui est un coton merveilleux.
Absolument.
Et on appliquait, donc voilà, ça c'est les choses les plus proches, mais on a plein d'autres aussi. Hein. Voilà.
Eh bien merci mon cher Rachid Koraïchi, bel événement pour demain à 10h30 au parc de la Courneuve. Merci à vous et bon vent pour la suite. Hein.
Merci, vous êtes formidable de soutenir et de participer avec nous à cette belle aventure.
Écoutez, c'est normal. C'est aussi l'objet des informés. Merci à vous. À demain, 10h30, à ne pas manquer. Rendez-vous au parc de la Courneuve, sur le département du 93. Allez, Inch'Allah. Inch'Allah, exactement, absolument. Et on se retrouve dans une poignée de minutes. Il est 18h35, on marque une pause et on se retrouve avec, tiens, je vais les accueillir tout de suite. Pierre-Henri, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Plutôt bien.
Bien. Bon, classe aujourd'hui, hein, cravate et tout.
Oui, oui.
Nabil Aitakash, bonjour, le représentant de Renaissance sur le département du 9-3. Comment ça va?
Bonjour Adil, très bien et vous-même?
Ouais, très bien. Bien dans le micro.
Il y a du boulot, hein, pour Renaissance.
Ah, ça? Ouais. Bon, on va en parler, là, non?
Ah, ouais.
Oui.
Non, mais il faut l'accueillir.
Vous vous êtes accordé pour... Non.
On va voir.
Le représentant de la CGT, mais également auteur, Jimmy Dalidou.
Bonsoir à tous, bonsoir Adil.
Comment ça va?
Ça va, ça va.
Allez, dans une poignée de minutes, on se retrouve et on confronte, justement, les regards sur les quatre sujets qui ont retenu notre attention. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
Et 18h41 précisément, et les informés, c'est parti, le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Et le premier sujet qui a retenu notre attention avec, justement, Jimmy Dalidou, Pierre-Henri et Nabil Aitakash. Alors, quatre sujets précisément, et on va commencer par le premier. Éco-terrorisme, ça c'est le mot qui a été lâché par le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin. Sauf que là, il est en train de se faire taper, évidemment, par les activistes, par les acteurs sociaux, par les militants écolos, par les politiques, et ça commence à sentir pas bon tout ça. Alors, justement, la dérive, est-ce que certains parlent de dérive? Est-ce qu'on peut parler de dérive, justement, quand on voit les images très fortes, notamment avec... là, pour le coup, est-ce qu'il y a eu dérive entre les activistes d'un côté, les gendarmes, et cette manifestation qui a pris une tournure complètement... certains la qualifieraient de violente?
Oui,
Pierre-Henri.
Il y a deux sujets. Il y a évidemment le sujet des bassines, c'est-à-dire ces énormes réservoirs de rétention d'eau, qui sont d'ailleurs pas des sujets très nouveaux. Hein. Ça fait 20 ans qu'on parle des bassines. Simplement, on en parle dans un moment où il y a raréfaction de l'eau, il y a sécheresse, et puis il y a une attention tout à fait particulière portée sur la question climatique. Simplement, il y a eu des jugements autour de l'utilisation de ces bassines. Et vous avez un courant qui est extrêmement radical, un courant écologique radical, qui emploie des...
C'est méthodes. Quoi radical? Anticapitaliste, anticapitaliste, anti-impérialiste, anti-tout, quoi? C'est quoi un radical?
Qui casse et qui détruit.
Bah, qui casse et qui détruit, c'est les Black Blocs.
Qui casse et qui détruit et qui va affronter la police. Alors, ça pose un problème. Ça pose un problème, mais qui doit être traité à son juste niveau. Et je crois que le juste niveau, ce n'est pas l'expression qu'a employé, qu'a cru devoir employer Gérald Darmanin avec son mot d'éco-terrorisme. Parce que les mots ont un sens. Si on traite ces militants et cette jeunesse radicale de terroristes, alors
donc ça fait
dire...
débat, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Non, ça veut dire qu'on rentre dans une réponse sécuritaire et juridique inédite. Et donc ça, c'est absolument invraisemblable. Et je pense que Gérald Darmanin s'est pris une fois de plus les pieds dans le tapis.
Nabil Aitakash, justement, parlons-en. Alors.
Écoutez, moi, je reviendrai pas peut-être sur les mots de Gérald Darmanin. Je pense pas qu'il y avait une volonté derrière de qu'il y ait une réalité juridique au terme qu'il a employé, que j'emploierai pas moi-même. Mais voilà, ça c'est voilà, je le dis.
Mais il est ministre de l'Intérieur quand même. Il a les forces.
Il est ministre de l'Intérieur. Mais ça traduit quoi encore cet événement? Ça traduit une chose. C'est des gens qui ne respectent pas des choix démocratiques. Il y a des procédures.
Pardonnez-moi de vous interrompre. C'était une manifestation qui n'était pas autorisée par le préfet.
Alors,
rappelons-le
pas,
au départ.
Autorisée par le préfet. Et en plus, ce que je veux dire quand je dis qu'il ne respecte pas la démocratie, c'est-à-dire que c'est quand même un projet. On peut penser ce qu'on veut. On est en pleine crise énergétique avec des problèmes sur l'importation de, sur les denrées alimentaires, sur notre souveraineté alimentaire. Et on va aller. Ces bassines, elles servent à quoi? Elles servent à l'agriculture. C'est nos agriculteurs qui vont les utiliser.
Pas mal d'agriculteurs sont pour, justement.
C'est les agriculteurs qui vont les utiliser.
Alors ça dépend.
Il y a un vrai débat. Il y a un vrai débat. Enfin, voilà. ce que je veux dire, c'est que la violence, c'est pas une réponse.
On est d'accord.
C'est pas une réponse. Voilà.
On est d'accord.
Tout simplement.
Mais la réponse du ministre de l'Intérieur est totalement inadaptée. Je veux dire, on ne peut pas employer des mots comme éco-terrorisme à l'égard d'une partie de la jeunesse française qui se mobilise sur les questions du climat.
Et là, pour le coup, il a raison. Ils vont se radicaliser de plus en plus.
Parce que à partir de ce moment-là, si les mots ont un sens, alors on adopte une législation hors norme. Une législation.
Non, on va pas adopter. Non, on va pas adopter une législation hors norme.
Eh bien,
on va pas adopter une législation hors norme. Mais la violence,
plus,
la violence.
Gérald Darmanin s'est trompé. voilà. Et manipule.
Le mot quoi? Le mot est idiot?
Pardon?
Le mot?
Oui.
Il
le
est
mot,
idiot?
Le mot, il crée des mots. M-A-U-X. Plutôt que de les résoudre. Or, le boulot du ministre de l'Intérieur, surtout dans cette période, c'est plutôt d'apaiser. Hein, c'est pas d'en rajouter.
Tiens, je vais solliciter nos auditeurs si vous voulez réagir sur ce sujet et nous dire, nous commenter votre avis. 01 53 48 3000. Tiens, je vais écouter Jimmy Djalidou justement.
Oui, alors.
Le représentant syndicat. L'événement de ce week-end.
Ouais, sur le terme qu'il a employé, évidemment. D'abord, faudrait qu'il nous ressorte la définition juridique d'éco-terrorisme parce que je suis pas certain que ça existe. Donc, c'est un mot qui est très subjectif. Et ensuite,
ça, c'est comme
et ensuite le terrorisme, il faut qu'il
c'est un mot de plus dans le
ils utilisent. En fait, ce mot terrorisme, il faut faire attention à cette notion-là parce que c'est un petit peu. C'est vrai quoi, ça me fait penser un petit peu à la loi des suspects du 17 septembre 1793 en fait. À partir du moment, c'est-à-dire tout le monde devenait suspect, mais le sens de la définition du sens suspect était tellement large qu'en fait tout le monde pouvait être suspecté.
Et
de
c'est comme ça que Robespierre s'est fait couper la tête.
C'était une approche totalement arbitraire. Vous voyez. Et moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est que la question qui se pose, c'est que où est-ce que se situent les valeurs de l'écologie là-dedans? Il faudrait qu'on se repose la question quelles sont les valeurs de l'écologie? C'est quoi la valeur de l'écologie? Parce qu'on a affaire à un écocide. Et la question qui se pose, c'est comment, dans quelle mesure on va pouvoir faire vivre ces valeurs de l'écologie. Et je ne pense pas que ce soit en utilisant des termes du genre...
Ça intrigue Pierre-Henri, ça. Pourquoi
beaucoup que la CGT, le représentant de la CGT, là, d'un seul coup, se convertit à l'écologie, alors que la CGT,
l'écologie est liée.
Totalement pro-nucléaire, anti-écologique.
Mais l'écologie, enfin, elle est liée au mode de production.
Si on veut revenir à des valeurs
écologiste.
Tu vas me réciter la page 10 du Capital de Karl Marx.
L'écocide,
c'est ça?
C'est-à-dire se sortir de ce guet-apens qui est l'écocide. Il faut revenir, et c'est ça la question qui se pose, la véritable valeur de l'écologie, qui est de revenir à un mode de production rationnel. Parce que le mode de production actuel est totalement anarchique, irrationnel, et il nous permet pas
Qu'est-ce
de
que vous
poser.
Répondez Bah attendez, on va faire un tour de table.
Il y a quand même un débat, s'il vous plaît. Il y a quand même un débat démocratique qui est organisé. On a fait des progrès pour justement que les associations de défense du climat participent. Donc tout ça, en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de débat démocratique dans la société. Ces gens-là ne respectent pas le débat. Il y a un débat en fait. Quand ces projets sont faits au local, vous avez quand même le préfet qui rassemble les associations, vous avez toutes les parties prenantes, agriculteurs, etc. Donc il y a des procédures démocratiques.
Les agriculteurs, ils rencontrent quand même le préfet, ses activistes.
C'est grave d'en arriver là. C'est très 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 grave d'en arriver là. On est exactement sur le même schéma du camp politique que vous représentez, à savoir que vous n'acceptez pas la démocratie. Vous n'avez pas accepté l'élection de 2022, la réélection du président de la République et la majorité relative que nous avons obtenue à l'Assemblée. Et là,
de la même façon, sur des projets locaux, des extrémistes qui vous ont dit d'extrême force d'abstentionnisme qui vous ont dit d'être dirigés par une bande de banquiers qui pensent plutôt à renforcer toujours plus le capital financier internationalisé et qui ne sont même pas capables.
Je vais redire ce que disait Pierre-Henri tout à l'heure. Faudrait que tu me lises peut-être
Justement, vous savez quoi? Il y en a un qui fait débat, puisque vous m'amener sur le terrain de Mélenchon. Il dit, je relis son tweet, manif pacifique contre les bassines et une nouvelle fois, trois députés frappés et aspergés de gaz lacrymo. Deux points. Il cite les députés, donc Madame Bellicot, ELV, Madame Meunier et puis Monsieur Prudhomme de LFI. Tous. Et il dit, une police républicaine, grand point d'interrogation. Est-ce que ce n'est pas de la provocation ?
Mais il y a évidemment une énorme part de provocation, d'abord parce que la stratégie...
Est-ce que ce n'est pas consommé indirectement aussi c'est,
La stratégie de LFI et d'une partie, des écolos...
C'est quoi ? C'est le désordre, comme disait Emmanuel Macron ?
C'est de tout conflictualiser. Tout conflictualiser.
Et c'est très dangereux.
Mais la société est aujourd'hui comme ça... hystérisé. Et donc, les espaces de discussion, d'échange démocratique sont remis systématiquement en cause. Alors, c'est vrai qu'il y a une cause qui, aujourd'hui, est dans cette stratégie. Et je pense qu'en face, la réaction du camp macroniste, on va dire, n'est pas adaptée. Au lieu de chercher à apaiser le débat, bien souvent, il y a des gens qui en remettent qui remettent sur de l'huile sur le feu. C'est pas possible. Et le mot de Gérald Darmanin, je reviens là-dessus.
Ça vous met en colère, ça. Mais j'ai bien compris.
Bien sûr que ça vous met en colère.
Gérald, vous avez rarement vu vous mettre en colère comme ça.
Mais parce que les mots ont un sens.
Les mots ont un sens, d'autant plus que vous avez présenté justement les mots ont un sens ici même sur BFM. Ça a eu un succès.
Absolument. Mais oui, les mots ont un sens et on ne peut pas comme ça traiter. Alors, on peut être en désaccord. Moi, je le suis. Avec les formes que prennent toute une partie de la jeunesse de notre pays, qui rejette le dialogue démocratique. Évidemment que je suis contre. C'est une histoire peut-être de culture, de génération, etc. Mais je dis attention...
D'ailleurs, il y a cette image forte entre le député européen Yannick Jadot et cette jeune activiste qui revient et presque... Je ne sais pas si on peut la retrouver, mais l'échange est très intéressant.
Absolument, sur Mademoiselle, Madame...
Madame, etc. Exactement. Il lui a dit, mais vous étiez où dans les années justement où
elle
je...
avait 14 ans.
Et elle revient, lui rétorque, mais et alors, il est où le problème ? On voit qu'il y a un conflit générationnel.
Mais vous avez une jeunesse qui est très radicale sur un certain nombre de sujets. Et donc, il faut trouver les formes, aujourd'hui, d'apaisement. Et moi, je reproche vraiment aux uns et aux autres, aujourd'hui, de nous donner un spectacle absolument déplorable à l'Assemblée nationale. Chacun s'accuse de jouer avec... le Front National, le Rassemblement National. Alors, c'est vrai à la gauche des deux LFI, mais c'est vrai aussi de Renaissance. Il faut arrêter avec ça. Sinon, on est en train de faire un boulevard.
Je crois qu'on a retrouvé l'extrait.
On est en train de faire un boulevard pour l'extrême droite.
Alors, Nabil Aït Akkaş, un boulevard vers l'extrême droite.
Le boulevard vers l'extrême droite, c'est pas nous qui le créons, c'est l'alliance.
Mais Pierre-Henri parle de violence, de radicalité, de tout ça.
Bien sûr.
Est-ce que vous partagez tout cela ?
Non, moi, je constate simplement que les extrêmes se rejoignent en ce moment, qu'il y a une radicalité, qu'il y a une violence dans la société, que les oppositions les alimentent très fortement et que c'est très dangereux en effet.
Je vais être un peu provocateur, messieurs. La question est pour vous trois. Et finalement, ici, ces jeunes écolos radicalisés. C'était le seul moyen de se faire entendre, évidemment, pour sauver le climat, pour sauver le réchauffement contre le réchauffement climatique. Pour, évidemment, se faire entendre. Ça a toujours existé, en réalité.
Mais oui,
et aujourd'hui, on vient dire qu'ils se radicalisent de plus en plus.
Enfin, se faire entendre, d'accord. Mais jusqu'à utiliser la violence et faire de la dégradation d'infrastructures...
Mais de quelle violence et de quelle dégradation tu parles ? D'abord, il y a une chose qu'il faudrait revenir, sur laquelle il faudrait revenir, c'est cette notion de radicalité. Je pense que c'est aussi une notion à utiliser avec soin. Parce que je pense pas, c'est comme à l'époque des Gilets jaunes, vous voyez. À partir du moment où vous avez des travailleurs qui sortent dans la rue et qui posent des revendications, et des revendications qui sont issues des discussions et débats, issues de la classe, de la classe ouvrière et des couches populaires, donc de la majorité des Français, ils deviennent radicaux. Il n'y a pas de radicalité, il n'y a que des éléments conscientisés.
Allez.
Conscient du monde qui les entoure.
On me demande, le réalisateur justement me demande de marquer vite la pause et on se retrouve, on continue d'en parler.
C'est
très très important. Très important ce que tu es en train de se dire.
Il faut faire rentrer de l'argent, c'est ça ?
Absolument. Il faut faire rentrer de l'argent, c'est une radio évidemment.
Eh ben ouais.
c'est aussi ça, non? C'est la vie économique.
Évidemment.
La spirale, vous la connaissez, non?
Ouais.
Bon, Jamie, il n'est pas d'accord, mais c'est comme ça.
Il est à l'est, l'argent.
Allez, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Il est 18h55 avec Dimitri Dalidou. Vous avez une courte page pub, hein?
Oui.
Pierre-Henri.
Oui, c'est vrai.
Nabila Takache. Justement, vous savez quoi? Vous m'avez parlé de Yannick Jadot, ces jeunes activistes. Écoutons cet extrait de... C'était ce week-end, justement, concernant les bassines. Écoutez.
Et le sujet toujours le même. La répartition. Contre l'accaparement. Donc aujourd'hui, on est là...
Merci. Je sais pas pour vous, mais il y a un argument que j'en ai marre d'entendre, c'est de dire cette mobilisation contre les bassines, c'est les écologistes contre les agriculteurs. Nous avons écologistes avec les paysannes et les paysans. Nous avons arraché les OGM. Nous avons occupé les terres à notre manière.
Alors, c'était ce week-end, justement. Est-ce que c'est pas une provocation? En réalité, bon, il se fait huer. Mais on comprend pourquoi il se fait huer. Moi, l'interprétation que j'ai, c'est l'écolo de droite, j'en veux pas.
Mais il y a un congrès d'écologie Les Verts, là,
bientôt.
Dans un mois.
Ben...
Et je rappelle que, quand même, pour la présidentielle, il y a eu un affrontement au sein des Verts entre Jadot et Rousseau.
Oui,
et
Sandrine Rousseau.
Aujourd'hui, Sandrine Rousseau, qui incarne la ligne radicale éco-féministe, fait tout pour désinguer ses adversaires, surtout masculins. Alors, bon, je reviens pas sur l'épisode Bayou. Bah, maintenant, évidemment, quand elle déclare, à l'issue de la manifestation, que finalement, il faudrait peut-être que Jadot bascule du côté de la radicalité et qu'elle excuse les violences, voilà, nous sommes dans le congrès d'écologie Les Verts. Et nous sommes loin des problèmes écologiques parce que la question des bassines, de la rétention d'eau, ça doit provoquer un débat. C'est pas si simple. Cette rétention d'eau qui est captée dans les nappes phréatiques, pour combien d'agriculteurs? Là, en question, si je ne me trompe pas, 12 agriculteurs. Or, la rétention, là, elle est énorme. Et donc, on est en période de sécheresse. Est-ce que, véritablement, c'est la bonne solution? Je crois que le débat doit se poursuivre. Et on ne peut pas simplement dire, par rapport à une jeunesse radicale, bah, le débat, il a été tranché.
Avançons. Ça ne marche pas. Absolument. Bah, faire assurer tout, en tout cas. Second thème qui a retenu mon attention, vous savez, c'est ces mentions de censure, et notamment la division de la NUPES, la gauche qui se divise, mais surtout contre, la stratégie frontale de la France insoumise. On va en parler. Il faut qu'on prenne le temps de voir... Quelle stratégie adopte aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, pardonnez-moi. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, messieurs, je crois que c'est l'un de vous deux qui a dit, vous l'avez dit, semer le désordre. Alors, est-ce que c'est ça, la stratégie d'LFI, Nabila Takache?
Non, on voit simplement...
Une division, là.
Il y a une division. On a 12... on a eu les résultats de la deuxième motion de censure de la NUPES, enfin de la LFI, votée par le Rassemblement National. Donc, il va falloir s'habituer à ça, à des votes conjoints.
Commun.
À des votes communs et conjoints du Rassemblement National et de la NUPES. Donc, c'est ça, le boulevard, vers l'extrême droite. Parce que, autant se dire... Enfin, moi, je pense que c'est vraiment ça. Je vous vois hocher de la tête. Vous n'êtes pas d'accord.
Mais non, je ne suis pas d'accord pour la raison suivante. C'est que vous exonérez votre propre camp de vos responsabilités. Il y a aussi un certain nombre de projets de loi qui ont été adoptés avec les voix du RN.
Non,
je
la
suis
responsabilité,
désolé.
La
vous ne pouvez pas oublier ça.
Nous, on n'a jamais demandé. On n'a jamais demandé
eux
à ce
non
que
plus.
Le RN. Mais écoutez, là,
qu'est-ce que vous voulez dire par là, Pierre-Henri? Expliquez-nous. Non, c'est très intéressant. C'est intéressant. C'est-à-dire. S'exonérer, oui, mais
à quel moment? Parce qu'on avait une majorité absolue sur le précédent quinquennat.
Oui, bien sûr.
À l'été, je pense qu'il y a eu des mesures qui ont fait l'objet d'un consensus, d'un débat, et c'était des mesures qui étaient dans l'intérêt des Français. Donc que là, quel est l'intérêt ? Faire tomber le gouvernement ? Est-ce que c'est un projet politique que de faire tomber le gouvernement ?
Mais attendez.
Donc toutes les semaines, on va voter des motions de censure pour faire.
Mais je suis d'accord avec l'utilisation de la motion de censure.
Alors je vous ai laissé parler, mais à aucun moment on travaille avec le Rassemblement National où on demande leur aide ou leur
Et là, vous reprochez à la NUPES de travailler main dans la main avec le Rassemblement National.
Ils sont des textes acceptables pour qu'ils soient votés par... Si Madame Le Pen estime que la motion de censure de M. Mélenchon est acceptable, il y a quand même quelque chose là. Il y a quand même une alliance objective.
Oui, mais quand vous dites ça...
Et moi, je trouve ça très dangereux.
Quand vous dites ça, Nabil, à partir de ce moment-là, moi, je suis tout à fait prêt à entendre votre argumentation, mais faites en sorte aussi... que le Rassemblement national, d'une part, ne vote pas un certain nombre de textes de loi à vos côtés, parce que ça a été le cas dernièrement. Et puis, deuxième élément, la lutte contre le Rassemblement national, c'est aussi une lutte culturelle. C'est aussi une lutte culturelle, ça veut dire que les représentants du gouvernement ne peuvent à aucun moment emprunter les thèmes de l'extrême droite, parce que ça le banalise. Vous voulez un exemple ? Eh bien, on va voir ce qui va arriver dans un mois ou deux autour du débat sur les questions migratoires.
Oui.
Nous sommes
Et pourquoi l'exécutif ne devrait pas s'emparer de ces débats ? Alors, justement, la sécurité, l'immigration, tout ça. Pourquoi laisser ces thèmes au Rassemblement National ?
Mais surtout, ne pas laisser les thèmes au Rassemblement National, mais affronter le Rassemblement National sur ces questions et ne jamais venir sur son espace culturel et ce qui a fait son développement électoral.
Ouais, alors, Jimmy Dalidou, on l'a pas entendu.
Il y a deux choses.
Je vous redonne la parole.
Éléments importants.
Il est trop silencieux là aujourd'hui, lui.
Oui. D'habitude, on entend que lui.
Premier élément important, c'est que on en parlait tout à l'heure. Je sais plus. Je crois que c'est toi, Nabil, qui a parlé de quel est l'objectif.
Vous connaissez bien.
Est-ce qu'il faut faire tomber le gouvernement ?
Ça fait.
Moi, je vais vous dire que de toute façon, le gouvernement est déjà tombé. Vous savez pourquoi ? Parce que pour un gouvernement...
C'est une nouvelle.
Parce que la première...
Moi, je ne le savais pas. Je ne le savais pas.
Mais je vais vous expliquer pourquoi. Si vous me laissez parler, je vais vous expliquer.
Oui.
Le premier élément, c'est que pour être un gouvernement, un véritable gouvernement, il faut d'abord jouir d'une légitimité morale. Et ça fait belle lurette que le gouvernement n'a plus aucune légitimité morale dans le cœur des Français qui vomissent ce gouvernement.
Ils
vomissent ce gouvernement.
La deuxième chose,
n'oubliez pas que la NUPES n'est pas une formation politique. La NUPES, c'est une nébuleuse électoraliste. Qui trouve c'est une nébuleuse.
Mais ils sont à l'Assemblée nationale, de quoi vous me parlez, mon cher Jimmy Dalidou ?
Il faut revenir.
C'est pas une nébuleuse.
C'est une nébuleuse électoraliste. Et elle était déjà divisée avant de rentrer au Parlement. Et
ça,
n'oubliez
pas
une chose, c'est que LFI, PCF sont dans la NUPES et la contradiction, les conflits étaient déjà consommé entre le PCF et les FI, bien avant de rentrer au Parlement.
Pardon, je pense qu'on s'éloigne. Alors, cette motion de censure, elle est faite pour quoi ? Elle est faite pour...
Je vais t'expliquer pourquoi elle est faite. Elle est faite pour quoi ? Pour faire jouer dans le paysage ?
Attendez. Vous avez mis sur la table quelque chose qui interpelle.
Le projet de financement de la Sécurité sociale 2023, sur laquelle est présentée cette motion de censure, qu'est-ce qu'il fait ? Il vote encore un budget de la sécurité sociale, il vote encore des mesures et des politiques qui vont permettre d'accélérer notre politique de santé en matière de prévention. C'est quand même très, très important.
Au contraire.
À tous les âges. C'est aussi des mesures pour l'autonomie des personnes âgées.
C'est pour ça que le gouvernement n'a pas empêché la fermeture des lits ces deux prochaines dernières années.
Il y a un moment,
certains services des hôpitaux ont été fermés.
Je t'ai laissé parler. créer des manœuvres,
c'est votre vision du service
créer
public.
Des manœuvres politiciennes pour empêcher de voter un budget de la sécurité sociale, des mesures qui vont permettre aux gens de mieux se soigner de manière préventive et par ailleurs de faire en sorte que les personnes âgées vivent mieux leur autonomie, etc. Donc moi faut me dire maintenant quelles sont tes réponses par rapport à ça.
Non mais au-delà
je vais te répondre, Nabil, en soutien à Henri,
sur la question de la gauche qui se divise. C'est important.
La première chose, je réaffirme que le Parlement, quelle que soit l'organisation, que ce soit NUPES, que ce soit RN, quelles que soient les formations politiques, elle reste une opposition contrôlée et acceptable à l'exécutif. C'est pour ça qu'ils sont là. Deuxième chose. Votre gouvernement avait voulu améliorer le service de la santé, etc., il l'aurait fait il y a belle lurette, et ces deux dernières années, l'hôpital public a été totalement massacré. Le service public n'existe plus dans le cadre en France. Le service public a été détruit sur l'autel du profit. Dans ces deux dernières années, c'est des centaines de lits d'hôpitaux qui ont été fermés.
Ça, c'est votre vision,
la vision macroniste
de
la santé publique et du service public.
Arrêter de faire croire aux gens qui vivent dans un pays dans lequel il n'y a plus d'hôpital.
Parce que la Macronie ont besoin de fric.
Les gens se font encore soigner.
Et en privatisant le service public,
et en même temps, vous augmentez le taux de profit. Médecins, la petite sonnette. Des médecins qui ont attiré notre attention sur le fait que le CS public, les hôpitaux, étaient évidemment fragilisés.
C'est le bon mot. Le service public est fragilisé, notamment dans les hôpitaux, dans les services d'urgence, on le sait. Ce n'est pas nouveau. C'est une situation qui dure depuis 30 ou 40 ans et qui continue. Bon, voilà. Et puis, j'ai envie de dire simplement, Jimmy, franchement, il faut sortir du pays pour s'apercevoir que notre propre système social, de protection sociale, est quand même unique au monde.
Mais bien sûr. Pourquoi elle est unique au monde?
J'ai un ami, tiens.
Mais il est toujours unique. Pourquoi il est unique au monde? Je veux voir ce qu'il va nous dire.
C'est que ça nous a pas été donné pour nos beaux yeux par les différents gouvernements. Oui. C'est issu de la lutte des différentes luttes sociales qui ont eu lieu entre 39-45 et après 45. Oui. Et c'est lié aux différentes luttes sociales. Et concrètement, c'est la lutte des classes qui a généré des droits sociaux et qui nous a permis d'avoir des services publics.
Les
différents gouvernements ne vous ont pas donné des droits sociaux parce que vous avez des beaux yeux. C'est la lutte des classes qui nous a offert tout ce qu'on a eu.
La sécurité sociale, c'est 1945, c'est au sortir de la guerre.
Vous oubliez 1936, les grèves de 36.
S'il vous plaît, un peu de tenue. Pierre-Henri.
Juste une petite histoire qui est arrivée à une amie qui était partie en vacances aux États-Unis. Il se trouve qu'aux États-Unis, elle s'est fracturée le bras. Et donc, elle a dû être opérée. Facture, 20 000 euros.
Elle a une assurance, non ?
Oui, sauf que il fallait prévenir
auparavant
les assurances.
Mais même quand vous avez une assurance aux États-Unis, ça vous coûte des dizaines de milliers d'euros.
Donc, je dis simplement ça.
Attendez, excusez-moi.
Oui.
Vous tombez malade aux États-Unis, vous avez une assurance.
Oui.
Non.
C'est la raison pour laquelle les Américains s'endettent d'une manière extraordinaire ou ne se soignent plus. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est un vrai débat, c'est un débat de fond sur lequel qui a opposé d'ailleurs Trump et Biden, et c'est une question d'une profonde actualité. Et il suffit simplement de sortir du pays pour s'apercevoir que certes nos services publics
souffrent.
Mais que pour autant, ça reste quand même un système.
Sur la gauche qui se déchire.
La gauche qui se déchire.
Et puis les mensonges de censure, comme le rappelait Nabil Aït Akkaj, qui s'enchaînent.
À partir du moment où on prend la motion de censure, je rappelle à quoi elle sert. Elle sert à renverser normalement un gouvernement. À partir du moment où on la brandit tous les matins et qu'on sait que, par ailleurs, on n'a pas la majorité.
Comme ça, le projet politique comme, aussi.
Absolument. Parce que, ça, c'est vrai, on renverse le gouvernement, mais pour faire quoi? Pour retourner aux urnes, pour conflictualiser. Mais attendez, je ne suis pas sûr que dans la période dans laquelle nous sommes, en réalité, alors que la gauche n'a pas de programme, ça soit la gauche qui, en cas de retour aux élections, gagne.
La gauche extrême, parce qu'elle est, elle est quand même complètement LFI-isée. C'est l'extrême gauche là qui mène
non,
la. Qui
ne
mène
ne la... parlons pas l'extrême gauche. Non, mais de toute façon, dans le langage politique,
parce que vous voyez une extrême gauche dans le parlement,
tout est devenu extrême. C'est-à-dire que LFI,
la véritable extrême gauche n'est pas dans le parlement.
LFI, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont d'extrême gauche?
Mais ils sont à la gauche.
Non, ce sont des sociaux-démocrates.
Point.
Ce sont des sociodémocrates.
Ouais. On aura tout entendu.
C'est une formation sociale-démocrate.
Ça va pas leur faire plaisir à tes camarades.
Bah, c'est une formation sociale-démocrate. Et je voudrais revenir sur un élément parce que tout à l'heure tu disais service public existe encore, blablabla. Non, le service public il n'existe plus. Vous savez pourquoi? Je prends par exemple l'exemple du ferroviaire. Quand l'entreprise se transforme, perd son statut d'entreprise publique et que ça devient une société anonyme, alors t'es plus service public. Je pense qu'il faut revenir à une régénération du service public. Il faut arrêter de défendre le service public parce qu'on ne peut pas défendre ce qui n'existe plus. Il faut régénérer le service public sur des bases sociales solides. Quand tu crées une société anonyme, il n'y a plus de service public. La contradiction entre
entre ça fait
la
débat.
Contradiction mais qui le va pas, service public
c'est la contradiction entre la mission du service public et le rendement, la rentabilité, le profit.
C'est dans les territoires.
Cette contradiction-là, elle n'est pas. La contradiction, tu ne peux pas faire une mission, assumer une mission de service public par une politique de rendement, par une politique du fric et faire du profit. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé.
Et c'est ça n'existe pas non plus de croire que ça se finance comme ça tout seul, en fait. Donc voilà, il y a un
l'argent
moment...
magique.
C'est ce qu'on appelle la nationalisation démocratique.
Allez, messieurs, nous allons marquer
une pause.
Entreprises et on se retrouve parce que je voudrais vraiment.
Il faut de l'argent toujours.
Et bien justement, on va parler argent.
En Union soviétique.
On va parler argent, vous savez quoi? On va parler de la hausse des prix qui atteint 10,7. Un record, chers amis. Eh bien, on va en parler. Parce que les fins de mois se sentent de plus en plus compliquées. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant.